Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment ça se passait quand vous découvriez un nouveau dinosaure qui n'était pas prévu? Il y avait... Vous faisiez la danse du feu, vous faisiez des trucs.
Alors, au début, c'était un peu la danse du feu. C'était, venez voir, on a trouvé un nouveau et tout. Tout le monde prenait des photos, on sortait les drones, on faisait des prises de vue aériennes, etc. Tout le monde était excité. Quand on est arrivé vers la fin de l'expédition, qu'on n'en pouvait plus, que c'était plus
tard. Merde encore, chier ces dinos.
C'était un peu ça, c'était vite, cachez-le, que le boss le voit pas, parce que s'il faut encore en sortir un, on va mourir.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité du jour, Vincent Renelot, est paléontologue bénévole au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris. La semaine dernière, je suis tombé sur un thread Twitter qui venait de poster. Ça commençait par « Je viens de passer un mois dans le Sahel nigérien à la recherche de nouvelles espèces de dinosaures avec l'expédition paléontologique la plus ambitieuse de ces 30 dernières années. » Et en dessous, une photo vue du ciel de 8 personnes en train de déterrer un énorme squelette de dinosaure. Après avoir vu ça, il fallait absolument que je tente de le contacter pour lui proposer de venir nous en parler. Et pour ça, j'ai dépensé sans compter mon forfait 4G et il a tout de suite accepté. Mais avant que Vincent nous raconte ses extraordinaires aventures, je dis bonjour à l'extraordinaire Marie de Breuer. J'ai pris beaucoup de café.
Un présentateur télé des années 2000.
Wow, bah non, mais je suis hyper excité,
Les intros qui riment, c'est rigolo. Hein.
C'est vrai, ça marche.
Ouais, bon. Ça marche bien.
Eh bah écoute, je garde ça pour la suite. Merci de me mettre en confiance. Bonjour Vincent, ça va?
Bonjour, ça va très bien Maxime, merci.
Oh là là, ça va, qu'est-ce que ça te fait Marie alors là?
De quoi?
Bah, Ross Geller et tout, c'est un peu la...
Non ouais, non, si, c'est...
Il y a un petit délire quand même, moi je suis...
Il y a un petit délire.
Il y a un feat Jurassic Park, Ross Geller, aujourd'hui ça a été excellent, ouais, on te le fait souvent, non?
Ouais, assez souvent, c'est, ouais, j'imagine. Alan Grant aussi.
C'est ça. Est-ce que t'es prêt à nous faire voyager, Vincent?
J'espère, ouais, mais il y a des chances qu'on y arrive.
Ouais, là, c'est incroyable, ouais, ton tweet, il a fait le carton plein, là.
Il a pas mal marché, il a vécu sa meilleure vie, ouais.
Oh là,
ouais, allez voir, il y a des photos de ouf.
Bon, d'abord, écoutez le podcast.
Oui, écoutez, et après, il peut faire deux choses en même temps.
Ok, j'arrête le café, moi, c'est terminé. Bon, alors, Vincent, j'ai quelques petites questions pour commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter en anglais? Tu sais, nous, on essaie de retrouver une ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro. Et donc, généralement, c'est que des touristes... On parle en anglais en auberge de jeunesse.
Ouais,
est-ce
ouais.
que tu peux essayer de te présenter comme ça ou c'est compliqué?
Non, il n'y a pas de problème. Je viens de parler anglais pendant un mois avec une équipe internationale. Donc... vous pardonnerez mon accent, mais so I'm Vincent, I'm from Paris, I'm a volunteer at the Paris Museum of Natural History, working on paleontology, and I'm here today to speak about my expedition in Niger to find new species of dinosaurs.
Wow, voilà. Fluent.
Fluent, ouais, là, c'est très fluent, très fluent. bon, moi, j'ai très hâte d'entendre parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au voyage en général?
Alors, j'ai la chance de voyager depuis longtemps. Mes parents m'ont donné le goût du voyage quand j'étais enfant et j'ai gardé ce goût du voyage. Donc, je voyage très régulièrement, que ce soit pour la paléontologie ou à titre personnel aussi avec ma femme. On voyage beaucoup, on aime beaucoup voyager dans des pays divers et variés, sur un peu tous les continents. On fait beaucoup de randonnées. Donc, pour moi, le voyage, c'est quelque chose d'indispensable. Et je pense que quand on ne voyage pas, malheureusement, on ne peut pas avoir une vision équilibrée du monde. Parce qu'on ne voit pas comment ça fonctionne ailleurs. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et C'est pas galvaudé, je trouve. C'est vraiment vrai. Voilà.
Sur ton compte Twitter, d'ailleurs, il y a une photo. T'es en rando. T'es en rando de dos.
Oui, ça c'est en Islande, effectivement. Ça c'est les vraies vacances pour les paléontologues parce qu'il y a pas de dinosaures en Islande.
Comme
ça,
ouais, t'es tranquille.
On est tranquille. Ouais.
Petite anecdote. Quand je contacte Vincent sur Insta, il me répond. Je suis trop content et tout, mais je voulais lui répondre vite, mais j'étais en train de regarder un match de Djokovic. J'étais à Bercy en train de regarder la demi-finale d'un tournoi de tennis. Donc j'envoie la photo de Djokovic et il me répond ah ouais t'inquiète Djoko est un ami et il m'envoie une photo de Djoko et j'ai fait waouh ok bon là il va y avoir des choses à raconter parce que tu fais ouais t'as un
ouais,
truc
parce que, je suis paléontologue bénévole donc je suis pas rémunéré pour ça. C'est une grosse partie de mon temps et notamment de mon temps libre mais à côté je suis chef d'entreprise et de par mon métier j'ai la chance de connaître Novak effectivement qui est un de mes clients réguliers notamment quand il passe à Paris en particulier pour le Masters de Paris-Bercy ouais. Voilà, il vient à peu près tous les jours après chaque match pour récupérer parce que je possède des centres de relaxation donc voilà j'ai la chance de le croiser très régulièrement, il m'invite à ses matchs etc. C'est assez sympa, c'est un mec vraiment adorable.
Petit warning Vincent, il va falloir que tu sois très très indulgent avec nous parce que au dernier épisode on a confondu le pôle Nord et le pôle Sud pendant tout, on a reçu Léa Bello qui est scientifique et on était un peu à l'ouest quoi,
ouais,
et pas au Nord et pas au Sud, ouais.
Ouais, on est pas...
On va pas
les couteaux et puis les guisés du tiroir.
Mais on va quand même bien se concentrer aujourd'hui. Et Marie, bon bah j'espère que tu vas encore nous apprendre des belles choses.
Eh bien pas du tout parce que justement force est de constater que quand on reçoit des personnes dans les sciences, moi sur mes quiz je me perds un peu. Du coup comme tu m'as dit, on reçoit Ross Geller. Ah. Eh bien je fais un quiz spécial perso de Friends et spécial Ross Geller. Donc, est-ce que vous êtes fan de Friends ou pas?
Est-ce que ça a un rapport avec le voyage?
Bah oui, les voyages des personnages de Friends.
Ah, des voyages des personnages de Friends. Mais bien sûr, Las Vegas, Londres. Pardon, excuse-moi, je vais.
Ouais, ouais, t'es pas mal.
Tu connais un peu ou pas?
Ouais, je connais. Enfin, ça fait 20 ans que j'ai pas regardé, mais bon, ça va, à l'époque, je suivais
ça reste ancré.
La série comme tout le monde.
Je trouve excellent ton thème, Marie.
D'accord. Maintenant, faut que ce soit marrant. Alors, Chandler, à un moment, n'a pas le courage de rompre avec Janice et prétend devoir vivre à l'étranger pour le travail. À quelle adresse dit-il vivre?
Et un rue de Yémen. Un truc comme ça.
C'est ça, c'est 15 rue du Yémen, Yémen oh. City, Yémen.
Allez, tchao.
Je suis impressionné, j'en avais aucune idée. Quoi. Écoute,
ah moi, ouais, t'es allé.
J'ai mon doctorat en Friends, c'est tout, quoi. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai?
On va voir.
Alors, Ross donne un keynote speech dans le Barbade, dans les Caraïbes, donc dans Barbados. Et en espagnol, espagnol, Barbados, ça veut dire les barbus. Pourquoi? C'est la seule info où on va apprendre quelque chose. Pourquoi le Barbade?
Les Barbades, on dit les barbus.
Vient des barbus.
Parce que, je sais pas, ils se rasent pas parce que c'est interdit les lames sur le... Non, je sais pas, il y a pas
okay,
un truc.
Ok, une théorie sur les barbes.
Est-ce qu'on mettait les prisonniers là-bas, ils se rasaient pas, je sais pas.
Eh bien, pas du tout, c'est parce que, c'est impossible à deviner, les figuiers sur l'île ressembleraient à des espèces d'arbres barbus.
Effectivement, c'est impossible à deviner, je confirme.
Bravo.
Bon allez, je reviens à mes blagues. Alors, Ross passe un entretien pour financer ses recherches, mais face à lui se trouve Benjamin Roberts, l'ex-petit ami de Charlie. Zut alors. Benjamin, pour piéger Ross, lui demande comment épeler Bosco Dictatosaur. Comment s'épelle ce mot?
Ah, c'est pour toi, là, celle-ci.
Je ne sais même pas s'il existe, celui-là, le Bosco Dictatosaur.
Eh bien, il n'existe pas tout à fait.
C'est le piège.
Mais par contre, comment est-ce que vous l'épelleriez?
Bah, s'il n'existe pas, on peut l'épeler comme on veut.
Ouais, vas-y.
Ah, je ne sais pas, Bosco. Oh,
Bosco, B-O-S-C-O.
Eh bien non, il y a un M muet au début.
D'accord.
C'est ça, la blague. Et évidemment, ce dinosaure n'existe pas. Bon, Phoebe ne croit pas en l'évolution. Voilà, tout bêtement. Pour elle, Darwin, tout ça, c'est un peu facile. Ce qui agace Ross. Quel argument donne-t-il pour la convaincre? Petit A. Mais enfin, Phoebe, les espèces évoluent. Regarde les girafes avec leur long cou pour bouffer des feuilles. B. Mais enfin, Phoebe, comment elle t'explique qu'on a deux pouces opposables pour appuyer sur des trucs? C. Mais enfin, Phoebe, réfléchis, merde.
Ça va être la 3, non?
Ouais, je dirais la 3 aussi.
Et non, il passe des pouces opposables et il prend des petits objets, vous savez, les petits trucs où on appuie en dessous et le bonhomme, il tombe. C'est pas très clair, mais c'est des jouets pour enfants. Voilà.
Le pouce préhenseur, on dit, non? Un truc comme ça.
C'est pas ça.
Non, c'est un pouce opposable, vraiment.
Ouais, et pour un préhenseur, c'est quoi?
C'est la main préhensile. On parle plutôt en général, c'est pour les singes qui ont une queue préhensile. Ah ouais. Ils peuvent l'entourer autour d'une branche, etc. Voilà.
Ça, j'ai pas. Voilà. Merci pour. Le quiz est terminé.
Le quiz est terminé.
C'était très très bien, Harry.
Très très cool.
Merci Maxime. On est en train de se. On se donne des compliments dans cet épisode.
C'est bien.
Alors bon, moi j'en ai une, Marie, de questions pour toi.
Ah.
Est-ce que tu savais que les dinos, c'est comme les champignons?
Bah non, là sur le papier.
Eh bien si, parce que ça se voit en surface ou ça se trouve en creusant.
C'est ce que j'ai vu.
C'est ça, c'est
un, ouais, c'est,
t'as tweeté
c'est,
un truc comme ça.
Ouais, j'ai tweeté exactement ça, je crois que c'est la phrase exacte. Bah, j'aime bien comme ça mettre des petites phrases un peu marrantes, un peu percutantes, qui parlent à tout le monde. Pour, c'est Twitter, c'est pas facile d'expliquer en 280 caractères des choses qui sont des fois un peu compliquées. Ça demande un gros travail de vulgarisation, et voilà, j'essaie d'avoir un ton assez léger pour que les messages passent bien. Et là, voilà, le petit parallèle avec les champignons, je pense que c'est parlant pour tout le monde.
C'est sûr.
Bah ouais, maintenant j'ai envie de chercher des dinos partout.
C'est la saison des champignons en plus.
Ah ouais. Okay.
Moi j'ai envie de chercher des truffes.
Ah, faut creuser, voilà. Pour les truffes, c'est plus.
Alors, est-ce que t'es OK pour nous raconter un peu cette aventure? Comment ça s'est préparé? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ton mois?
Ouais, bien sûr. Comment ça s'est préparé? Alors, c'est ce que j'explique sur Twitter, c'est que c'est pas le genre d'expédition qui se prépare comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Là, c'est une expédition qui était organisée par l'Université de Chicago, et notamment avec le docteur Paul Sereno, qui est peut-être le paléontologue le plus connu de la planète, et du moins le plus médiatique. C'est un très grand scientifique. Et ça fait plus de 25 ans qui fait des expéditions au Niger, là-bas. Donc ils connaissent très bien le terrain, ils ont des connexions avec absolument tout le monde sur place. Là, c'était cette expédition Niger 2022. C'était l'aboutissement de plusieurs expéditions précédentes, et notamment celle de 2018, qui était une mission de prospection. Donc ils sont allés voir où est-ce qu'il y avait des sites fossilifères et des dinosaures. Et donc là, le but de la mission de 2022, c'était d'aller chercher ces dinosaures qui avaient été trouvés en 2018. Donc normalement, c'était une expédition qui devait avoir lieu en 2020, et qui a été reportée bien sûr à cause du Covid, hein, comme sûr. Tout. Parce que c'est une très grosse logistique, et le Niger aussi avait bien freiné au niveau des entrées et des étrangers à cause du Covid, mais comme tous les pays. Hein. Donc du coup, ça a été reporté à 2022. Moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que il y a une tradition au Niger pour ces expéditions de prendre des Français. Déjà parce qu'on parle la langue. Ce qui n'est pas le cas forcément des Américains.
Hein, on aurait pu y aller, Marie.
Voilà, le français est une langue officielle au Niger, parmi sept autres langues. Hein, pas mal d'autres dialectes, enfin d'autres langues. Mais le français fait partie des langues officielles. Et en plus, on a une grosse tradition avec le Muséum de Paris, parce que c'est un Français, Philippe Taquet, qui en 1965, le premier a découvert ces gisements fossilifères, et le premier a fait des expéditions là-bas. Voilà.
D'accord.
Donc c'est pour ça, il y a eu beaucoup d'expéditions françaises dans les années 60-70, et dans les années 90, du coup, c'est les Américains qui ont repris le flambeau.
Ils se sont rendus compte qu'il y avait des dinosaures quelques années auparavant, tu disais ?
Alors en fait, c'est dès les années 60, on a découvert d'énormes gisements fossilifères au Niger. Après, c'est des expéditions qui sont pas faciles à organiser, parce que c'est quand même un pays qui est en plein cœur du Sahara, très compliqué d'un point de vue logistique, d'un point de vue humain. Donc les expéditions là-bas, c'est toujours des grosses aventures, on va dire. Mais celle-là, effectivement, celle de 2022, c'est la suite de celle de 2018. En gros, en 2018, ils ont repéré vraiment les fossiles de dinosaures, ils les ont protégés très rapidement.
C'est ça que j'allais dire, quand tu sais qu'ils sont là et qu'après tu pars, tu dois être un peu stressé.
C'était un peu la question, c'est vrai que donc ils les ont protégés très rapidement avec notamment des amis du musée, notamment Didier Duteil, c'est grâce à lui que j'y suis allé, qui est spécialiste des poissons, pas des dinosaures mais des poissons fossiles. Il faisait partie de l'expédition en 2018, et ils ont protégé ces dinosaures qu'ils avaient trouvés en mettant du plâtre par-dessus. On a des techniques après pour les protéger, pour empêcher qu'ils s'abîment.
Okay.
Parce que dès que les eaux sont en surface, ce que j'expliquais sur Twitter aussi, c'est qu'avec le vent, la chaleur, la pluie, la saison des pluies là-bas, c'est quelque chose de très fort. Les eaux s'abîment très très vite. Donc dès qu'un os est en surface, dès qu'il est laissé aux éléments, il va s'abîmer en quelques mois seulement. Donc il faut les protéger, puis pour les protéger des pillages aussi. Même si au Niger c'est relativement limité, par rapport à d'autres pays. Voilà, donc il y avait quand même une incertitude. Et là, on a eu la bonne surprise sur sur le mois que j'ai passé, sur les dinosaures qu'on allait chercher. Ils étaient parfaitement restés dans l'état dans lequel ils les avaient laissés. Donc il n'y avait pas eu... Personne n'était venu visiter le site. On a un autre site où, par contre, effectivement, il y a des petits curieux qui étaient passés. Alors, c'est des sites au milieu de nulle part, mais il y a quand même des gens qui passent. Hein, et donc, forcément, on voit du plâtre, on voit des choses. On pense qu'il y a quelque chose à cacher en dessous. Par curiosité, ils vont retirer le plâtre, sauf que c'est faut pas le faire.
Faut mettre des leurres, non, faut pas faire genre un truc attention ici c'est une dangereux
bâche
ou quoi.
De la forme.
Donc là effectivement ils avaient été complètement untouched comme disent les Américains, donc on les a retrouvés tels qu'on espérait et même plus, parce que on a des découvertes plus que prévu.
C'est quoi je voulais savoir, c'est quoi le quotidien là-bas du coup?
Alors le quotidien là-bas je vais pas vous mentir, à part le fait qu'on bosse sur des dinosaures, le quotidien il est assez spartiate quand même, hein. Donc on est isolé de tout, on est coupé de tout, on est en autonomie quasi totale, voire totale, donc on dort en tente au milieu du désert.
À côté des squelettes, enfin juste...
Ah, pas trop loin, oui, alors pas juste à côté, parce que là où c'était vraiment très inhospitalier, c'est une plaine, les plaines de l'Iraser, c'est une très grande région au plein centre du Niger, c'est de l'argile, donc en gros quand c'est la saison des pluies, c'est de la boue partout, et quand c'est la saison sèche, là c'était le début de la saison sèche, c'est extrêmement venteux et poussiéreux. Donc il fait très chaud, il fait plus de 40 degrés tous les jours. C'est du vent, donc c'est l'harmattan qui souffle là-bas, c'est un vent extrêmement chaud qui va souffler à partir de 9-10 heures le matin jusqu'à 16 heures à peu près. On avait des tornades des mini tornades quasiment tous les jours là. Et donc c'est un environnement qui est quand même très hostile, très poussiéreux, très chaud. Après nous c'est vraiment la vie, on avait un camp de base quand même avec une tente technique dans laquelle on avait les ordinateurs, de quoi recharger les appareils électroniques, les drones, les appareils photo,
un peu de clim
malheureusement ça on a vite fait une croix dessus. On était content de la retrouver après quand on est retourné en ville, mais on a vite fait une croix sur la clim. On avait aussi une tente cantine dans laquelle on stockait la nourriture et on préparait de quoi manger, mais après sinon on était vraiment au milieu de nulle part quoi, donc c'est vraiment très isolé. Et nos journées ça consistait à creuser tout simplement, hein. La première partie c'est un peu plus soft, on a les autres dinosaures en surface, on va épousseter un petit peu avec des brosses, des pinceaux, quelque chose d'assez, des fois des petits coups de marteau mais assez léger. On va essayer d'étourer un peu tous les os parce qu'on voit juste, c'est un peu le sommet de l'iceberg, on voit juste quelques os qui sortent mais il y a peut-être le dinosaure complet en dessous. Alors des fois pas, des fois oui, et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, on était censé retrouver un dinosaure, on en a retrouvé 5. Le seul problème c'est qu'on avait 25 jours pour en sortir un et qu'il a fallu en sortir 5 en 25 jours, donc du coup ça a été un peu intense, voire même très intense, mais voilà, donc au début on dégage gentiment et puis une fois qu'on a fait le tour complet du dinosaure et qu'on sait qu'il n'y a plus d'os à découvrir, là on va vraiment faire du BTP, hein.
Des marteaux piqueurs,
ouais, voilà,
ça.
C'est ce que je dis en rigolant à mes amis qui me parlent de ce que j'ai mis sur Twitter, je leur dis c'est le thread de BTP le plus populaire de l'année quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on on creuse autour, donc à la pioche, à la pelle, au marteau, au piqueur, sur batterie, sur générateur, donc là c'est vraiment du gros travail mais quand même avec un peu de prudence. Même en utilisant le marteau piqueur on fait attention que quand on retire les mottes de terre, enfin les mottes de sédiments, qu'il n'y ait pas de l'os dedans, hein. Il peut très bien y avoir une surprise en dessous, ça fait partie du jeu. Mais là au marteau piqueur en tout cas, au marteau piqueur on fait un petit peu attention, mais voilà, donc là c'est effectivement c'est pelleté et marteau piqueur toute la journée en plein soleil, donc c'est voilà le quotidien sur le terrain, c'est ça.
Et toi tu voulais y aller?
Ça me faisait un peu penser au Burning Man sans la teuf là, cette ambiance. Mais est-ce qu'il y avait la teuf quand vous avez trouvé un nouveau dino? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a toujours beaucoup d'excitation, ouais, et beaucoup d'adrénaline quand on découvre ce genre de truc, même si là c'était que des personnes expérimentées, parce que ouais, évidemment sur Twitter j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais est-ce qu'on peut venir fouiller avec vous, etc. Alors dans l'absolu, il y a des fouilles aussi, il y a des très belles fouilles en France, hein.
Une question que j'allais te poser après.
On a notamment deux beaux chantiers de fouilles, on a Anjac en Charente, entre Angoulême et Cognac, qui maintenant depuis 12 ans, 13 ans, est le plus gros site à dinosaures d'Europe, qui se visite d'ailleurs, c'est au mois de juillet tous les ans, donc si vous voulez le visiter c'est très simple, hein. Il suffit de s'inscrire auprès du syndicat d'initiative de la ville d'Angoulême, enfin, on tape ça sur internet, on trouve très rapidement.
Angoulême Dino.
Ouais, voilà, c'est
Angoulême BD et puis Angoulême Dino.
On a l'illustrateur à Anjac, parce qu'on a toujours des dessinateurs scientifiques avec nous, c'est un dessinateur de BD à l'origine.
Ah.
C'est Mazan, c'est un dessinateur qui a bossé sur pas mal de choses.
Tu vois, il y a des dessinateurs, nous on peut venir faire des blagues aussi, peut-être s'il si y a des gens
On a aussi des vidéastes, on a toujours notre travail média. Mais donc du coup effectivement il y a Anjac, et ensuite on a Canjuers aussi qu'on a réouvert l'année dernière, que je co-dirige avec une collègue, avec Karine Payer. Donc Canjuers c'est un petit peu particulier, c'est sur le plus grand champ de tir d'Europe, c'est un terrain militaire français, dans le Var. Alors
donc il y a des squelettes d'un peu de tout du coup.
Oui voilà c'est ça. Alors,
normalement
on cherche des squelettes un peu plus vieux que ça, mais oui c'est un coin qui est magnifique, c'est bordé par les gorges du Verdon au nord et le lac de Sainte-Croix à l'ouest, c'est un paysage absolument fabuleux. Mais voilà, c'est deux gros chantiers de fouilles pour lesquels tous les ans on prend des débutants, ce qu'on appelle des chantiers écoles. Alors en général on prend quand même des étudiants qui sont dans le milieu, c'est-à-dire qui font des études qui sont en général en licence ou en master de sciences et vie de la terre, ou déjà en master de paléontologie, voire déjà en thèse. Mais de temps en temps on a des personnes qui sont pas du tout du milieu. En général c'est des gens qui sont quand même intéressés et qui traînent un peu dans le milieu depuis un petit moment, qu'on voit dans des conférences ou c'est des têtes un peu connues, mais voilà, ça reste, on cherche quand même des gens qui sont motivés, parce qu'effectivement c'est ce que je dis. Alors le Niger c'est la version extrême, mais quand on fouille à Anjac ou à Canjuers l'été c'est pareil, taper à la masse pendant des heures par 40 degrés, c'est le problème de la paléontologie, c'est qu'on va fouiller dans des carrières, on va fouiller dans des milieux très rocheux en général, donc on n'est pas abrité, il n'y a pas d'arbres, c'est très rare les sites qui
sont abrités. Il faut
investir
dans une bonne casquette.
Donc voilà, c'est le chapeau et la casquette et la crème solaire en général, c'est assez indispensable. Après pour le Niger, bon ça c'est une version extrême, il n'y avait pas de débutants, voilà, c'était que des personnes expérimentées qui avaient déjà plusieurs années, plusieurs expériences de chantier de fouilles, parce que là effectivement il faut prendre des gens qui soient capables de renoncer à leur confort pendant... Alors moi c'était un mois, mais j'ai des petits camarades qui sont toujours et qui font 3 mois au total là-bas.
Donc 3 mois
même d'un point de vue personnel, il faut pouvoir l'encaisser, quoi. C'est 3 mois coupés du monde, sans voir ses proches, sans voir... donc c'est très particulier. Mais voilà, c'est là, au Niger, en tout cas, c'était des personnes expérimentées. Donc malgré ça, malgré l'expérience, c'est toujours une grosse excitation, pour revenir à ta question, Maxime, c'est toujours une grosse excitation de découvrir des dinosaures. J'ai eu la chance, notamment en Jacques, de participer à des très belles découvertes qui marquent une vie. On avait découvert, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus, un fémur de 2 mètres de long. C'est juste... La news, elle avait fait le tour du monde à l'époque déjà. Mais là, c'est vrai qu'au Niger, on tombe sur des squelettes entiers.
C'est hyper rare,
c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai expliqué sur Twitter. Je pense que c'est que j'ai pris 3 tweets pour l'expliquer, mais c'était quelque chose d'important. Ce genre de découverte, même pour des paléontologues, c'est pas fréquent. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein. Ce que j'expliquais, on peut faire 3 grandes catégories de découvertes de fossiles, de vertébrés. On va retrouver un bout d'os ou un os isolé, ça c'est la première catégorie. Donc juste un os comme ça, c'est le seul truc qui nous est parvenu, tout le reste a disparu. C'est ce qu'on va trouver de plus fréquent. En France, on a régulièrement ce genre de petites découvertes, notamment en Normandie, par exemple, un fragment ou en Provence. On va juste avoir un bout d'os de dinosaure et rien d'autre. C'est intéressant, mais ça ne va pas nous apporter grand-chose d'un point de vue scientifique. Ensuite, il y a le deuxième type de catégorie. On va retrouver un dinosaure plus ou moins complet. En général, il n'est pas trop complet. Et surtout, il va être en mode puzzle, donc complètement éparpillé sur une surface plus ou moins grande. Donc c'est vraiment la partie de Mikado, quoi. On va... un os là, un os 20 mètres plus loin, du coup on n'est même pas sûr que ce soit exactement le même dinosaure, est-ce que c'était pas son frère qui est mort juste à côté, enfin ce genre de choses. Et effectivement ce que tous les paléontologues rêvent de trouver un jour, c'est le squelette complet articulé ou quasi complet articulé, donc tous les os sont en connexion, donc là on retrouve le dinosaure dans la position dans laquelle il est mort, donc avec tout qui est sur place. Et donc ça arrive quand même assez fréquemment, tout est relatif, mais sur les petits dinosaures c'est plus fréquent, parce que c'est plus facile pour un petit organisme de se fossiliser, il va tomber dans une flaque de boue pour schématiser, il va être vite recouvert, il n'est pas très grand, il va être complètement fossilisé comme ça. Le seul dinosaure français complet qu'on a, il fait 1m20 de long, un petit peu plus d'ailleurs, je ne sais plus, c'est le seul dinosaure français complet qu'on a en France, mais il est petit.
Et comment il a été trouvé celui-là par exemple?
Alors celui-là il a été trouvé à Canjuers justement, le site sur le terrain militaire.
Mais les gens ils font quoi pour tomber dessus en fait? Qu'est-ce qui se
Alors
passe
là c'était un peu particulier, c'était dans une carrière avant que ce soit un terrain militaire, et c'est les carriers qui l'ont trouvé, leur métier c'était d'enlever de la roche, et à un moment ils ont retrouvé un morceau de roche et hop, il y avait un dinosaure fossilisé.
C'est pas demain qu'on en trouvera un, hein.
faut chercher au bon endroit et puis c'est toujours une question de, c'est comme au loto, faut beaucoup jouer pour gagner.
Ouais.
Voilà, c'est. Mais donc voilà, et donc les plus les animaux sont gros, plus c'est difficile de les retrouver complets. Et notamment les sauropodes, c'est les dinosaures dont je m'occupe, dont je fais pas mal de recherches là-dessus. C'est les plus grands animaux terrestres ayant jamais vécu. Hein, c'est des dinosaures qui pouvaient faire jusqu'à 35 mètres de long.
C'est les longs coups. C'est les longs coups.
C'est les longs coups, exactement. Ouais. Mais c'est une grande famille. Hein, y a à peu près 300 espèces. Mais donc
résumé par les longs coups. Par Maxime.
Mais c'est un très bon résumé parce que c'est une de leurs caractéristiques principales. Ils avaient tous un long cou. Alors justement, ceux qu'on a trouvés au Niger, là, c'est intéressant. Il y avait sur les trois espèces qu'on a trouvées, il y en a deux nouvelles. Donc elles n'ont pas encore de nom. Elles seront nommées dans les années à venir quand ils seront étudiés. Mais celui dont j'ai mis des photos là du site principal, dont on a trouvé trois spécimens de celui-là, il a un cou particulièrement court pour cette famille. Voilà, c'est particulièrement court, c'est quand même un coup qui devait faire 5-6 mètres de long, mais c'est relativement court pour la famille. Il n'y a pas de nom encore.
Ah,
c'est une nouvelle
espèce.
Donc il va falloir attendre un petit peu.
Le mi-long coup.
Alors après, entre nous, on essayait de lui donner des petits. En général, il y a toujours des petits concours de noms un peu débiles qu'on se donne le soir au coin du feu, mais pour dire comment on va l'appeler. Mais
ce sera de l'ambiance au coin du feu.
Ce sera pas ça.
Ouais, j'ai envie de me retrouver un peu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des trucs inattendus, une petite anecdote un peu folle qui vous est arrivé pendant ce mois?
Oui, il y a eu beaucoup d'imprévus, notamment au niveau des véhicules. C'est l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique. Les véhicules de l'expédition qu'on a, ils les ont depuis très longtemps. C'est des vieux Land Rover. Je crois que je ne me suis jamais fait aussi peur qu'en ouvrant le capot d'un de ces Land Rover.
Wow.
C'est vrai que c'est... ça peut se réparer, tu peux réparer un Land Rover à l'infini,
ouais.
Mais ça tombe en panne en permanence. C'est comme
les deux chevaux.
Oui, voilà, c'est ça. C'est relativement simple à réparer. On peut changer un joint de culasse au milieu du désert. C'est pas un truc très compliqué. Du moment qu'on a la pièce, c'est faisable. Mais par contre, effectivement, ça tombe en panne tous les 50 km. Enfin, tous les jours, c'était quel Land Rover on prend, lequel fonctionne, lequel fonctionne pas.
Ouais.
Donc on avait nos mécanos au milieu du désert, les Touareg, là, un guide Touareg notamment, qui s'y connaît bien en mécanique. Moi, je m'y connais un petit peu en mécanique aussi. C'est vrai, donc j'essayais de filer des petits coups de main de temps en temps, nettoyer le filtre à air au milieu du désert. Il est très vite encrassé. C'est des choses, c'est bien de savoir le faire. Changer une roue aussi, c'est quelque chose de basique, mais si on sait pas le faire, on va pas très loin. Donc on avait pas mal d'ennuis comme ça avec les Land Rover. Donc c'est une expédition qui est bien rodée, parce que ça fait 25 ans qu'ils font ça.
Mmh.
Et en même temps, faut savoir gérer l'imprévu en permanence. Quoi. Mmh. C'est tous les jours des nouveaux imprévus. Mais notre petit camp de base était quand même, le soir, on était content d'y rentrer. Quoi. C'était retour à la maison. C'était sommaire, mais on avait quand même un minimum de confort. On pouvait manger quelque chose de chaud.
Ouais, vous mangez quoi, par exemple?
Alors, c'est des expéditions américaines. Mmh. Donc, ils vont pas avoir exactement la même, la même conception de la nourriture que nous autres Européens, j'ai envie de dire. On mangeait relativement bien, quand même, hein,
ouais.
je dois le souligner. Mais c'était, pour des raisons à la fois sanitaires et de praticité, de la nourriture déshydratée en grosses conserves, en fait, hein, des grosses boîtes.
Ok.
Donc ça, bon, c'est pas très varié, mais ça avait le mérite d'être pas mauvais. Donc on avait des pâtes avec une sauce, avec plusieurs sauces différentes, du riz, pareil, avec on pouvait ajouter des petits morceaux de viande, c'était des petites boulettes de bœuf déshydratées. Ça faisait un peu un petit croquette pour chien, mais réhydratée, quoi. Mais bon, on était content d'avoir ça. Et après, c'est surtout au niveau des snacks. On avait une grosse différence de culture. Là. Forcément, comme c'est très physique, hein, ce qu'on fait,
il faut tout le temps
s'hydrater. C'était à peu près 6 litres d'eau par jour par personne. Plus effectivement, tout le temps, c'était bien de grignoter aussi à 10h, à 16h, en plein effort. Fallait y penser, faire des petites pauses. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit, on va penser à prendre des snacks, hein, tu vas te servir dans le carton. Là. Donc, chaque site avait son carton, chaque Land Rover avait son carton. Et tu ouvres le carton et là, tu vois qu'il n'y a que des boîtes de Pringles dedans. Et tu dis, mais c'est quoi ces snacks? Moi, je veux des barres céréalées, je veux des fruits secs, je veux... Non, mais c'était la conception un peu particulière. T'avais les paquets de chips et les boîtes de Pringles. Mais moi, le truc salé en plein désert, j'ai soif en permanence. Je vais pas reprendre un Pringles, ça me donnait encore plus soif.
Ah ouais.
C'était assez rigolo. Et pareil, là, on a la boîte de bonbons qui est devant nous. Ça fait plaisir de voir des vrais bonbons. Parce que, alors, je sais pas si c'est... général aux États-Unis, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais j'ai pas le souvenir de ça forcément. Mais ils m'ont dit, ah regarde, on a des bonbons le soir au coin du feu. Je me dis, tiens, je vais en prendre un. Et en fait, c'est le seul truc qui est pas sucré chez eux.
Ah ouais.
C'est le seul truc qu'on mangeait qui était pas sucré, c'était les bonbons. Je fais, mais c'est pas possible quoi. Enfin,
bon, attends, c'est quoi ces bonbons pas sucrés?
Bah, je sais pas, c'était des grands filaments un peu gélatineux, comme les fils chez nous quoi. Sauf que les fils chez nous, ça a du peps, ça a du goût quoi. Et eux, pas du tout. Même à peine le goût d'un fruit, c'était bizarre. C'était bon, bref, j'en ai pris un. Je me suis arrêté là quoi. Ouais, moi aussi j'étais assez déçu. Je t'avoue que j'étais assez déçu en le goûtant.
Alors le soir, ouais, vous faisiez quoi comme activité de groupe, de divertissement?
C'était alors déjà, on était claqués le soir, à pas se mentir.
Des séances ciné, chacun présente un film.
On a fait des séances ciné, puisqu'on avait quand même plusieurs groupes électrogènes, donc on avait nos ordinateurs, on avait même un petit projecteur, donc on se faisait des petites séances sur la toile de la tente, d'une des tentes, on se faisait des petites projections. On s'est regardé le cinquième, oui, alors à un moment ils ont mis Jurassic Park 3, je sais pas pourquoi celui-là d'ailleurs, bon, je vais casser un peu le mythe, mais... je suis pas un grand fan de Jurassic Park, donc c'est pas les derniers, j'en parle même pas.
Même pas le premier, même pas le premier.
Bah, le premier, il a un côté culte, mais c'est pas, c'est un bon film. Ouais. Mais je vais pas le regarder en boucle chez moi.
Une intro dessus tout à l'heure, je vais peut-être la modifier.
Il y a de nombreux amis paléontologues qui eux, par contre, sont des fans inconditionnels. Ouais, parce que je suis arrivé dans le métier par ça.
C'est ça, ce que j'allais dire. Ça a dû inspirer plein de gens à...
Forcément, ça a inspiré plein de gens, et encore aujourd'hui...
T'as jamais vu Jurassic Park?
Wow, my God.
J'avoue.
Le 1 vaut le coup, quand même. Le 1, c'est un Spielberg, quand même. Donc
je sais, mais moi, il me manque plein de trucs comme ça.
Okay, mais bon, oui, on s'est regardé Jurassic Park 3, on a regardé Le Cinquième Élément. J'étais content de leur dire... vous savez que c'est un film français. Comment ça, c'est un film français? Ouais, quand même, un peu, quoi.
Et rien à voir, mais avec le recul, tu trouves pas que c'est un énorme nanar?
Moi, je l'ai
c'est trop rigolo de le revoir maintenant.
Je l'ai vu tellement de fois que je suis plus capable d'avoir un jugement dessus. C'est devenu tellement culte, la plupart des répliques et tout. Mais c'est vrai que j'avais un collègue italien qui était là, qui ne l'avait jamais vu. Il disait, c'est bizarre ce mélange d'action et d'humour en même temps. Il était un peu perturbé par ça. Je fais, ouais, c'est vrai que c'est complètement décalé. En même temps, ça marchait bien à l'époque. C'est vrai,
culte.
Mais voilà, donc on se faisait ça. Il y avait des petites soirées.
C'est vrai que c'est... Je repense au pitch du film. C'est vrai qu'il est un peu.
Oui,
con.
Non, c'est quand...
Il y a Écran Large qui a fait un truc dessus en disant, non, mais il faut arrêter avec ce film. En fait, c'est bien, mais c'est
nous, scénario. Au milieu du désert, c'était efficace. Ça nous faisait rire, franchement. C'était très bien, et puis après bon, on avait aussi bon, des fois il y avait des petites soirées un peu jeux de société.
Trop bien.
Moi j'y jouais pas, mais ils se faisaient des petites soirées D&D, donc jeux de rôle, Donjons et Dragons,
ma passion en ce moment.
Donc ils se faisaient des petites soirées D&D,
trop bien.
Moi j'aimais bien aller aussi avec les Touaregs.
Raconte ça.
En fait on n'était pas tout seul, hein. On était 17 là, 17 paléontologues, vraiment pour l'équipe, le noyau de l'équipe on va dire, à creuser la journée, mais juste 17 personnes au milieu du désert, on peut rien faire sans ça, juste nous. Donc on avait quand même beaucoup de on avait plusieurs guides Touareg avec lesquels l'équipe travaille depuis plusieurs années, on avait aussi toute une escorte armée qui était beaucoup plus nombreuse que nous, je détaillerai pas pour des raisons évidentes de sécurité, mais on avait notre petite armée.
Vous vous sentiez en sécurité ou
c'était... Oui, on se sentait, moi je me suis jamais senti en danger à aucun moment. Donc on avait de la gendarmerie et de la garde républicaine nigérienne qui étaient avec nous, donc lourdement armés, mais des gars très sympas qui étaient très contents de venir voir ce qu'on faisait. Ils nous ont même filé des petits coups de main, nous on discutait avec eux, ils parlaient français, c'était sympa.
On aurait filé des Pringles et
exactement, c'est un peu ça,
et des bonbons sans sucre.
Des bonbons sans sucre, mais moi c'était plus, alors de temps en temps ils venaient manger avec nous, mais moi je préfère aller manger avec eux parce que bon, ils faisaient quand même des méchouis, du mouton, tout ça. C'est vrai que quand on a marre des pâtes en boîte, c'est bien d'aller voir ailleurs. Et puis après il y a le petit thé à la menthe bien sucré là, comme ils savent le faire, ça passait bien, et puis ça permettait de changer un peu de sujet de conversation aussi. Et puis c'est bien, moi je... c'est bien d'aller chercher des dinosaures au milieu du Niger, mais c'est bien de découvrir un peu le pays, la culture, et discuter un peu avec eux, avoir leur point de vue sur l'actualité internationale, comment ils vivent au quotidien. On était la ville principale où on était, c'était à Agadez, c'est un carrefour migratoire depuis la nuit des temps, encore aujourd'hui, au milieu du désert. C'est une ville très particulière, qui est loin de tout. Je crois que c'est une ville qui doit faire 200 000 habitants, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez gros. C'est quoi votre quotidien? Comment vous vivez comme ça au milieu du désert dans une ville de cette taille-là? Moi j'aimais bien aller discuter avec elle le soir.
Trop bien.
Trop sympa.
Comment ça se passait quand vous découvriez un nouveau dinosaure qui n'était pas prévu? Il y avait... Vous faisiez la danse du feu, vous faisiez des trucs.
Alors, au début, c'était un peu la danse du feu. C'était, venez voir, on a trouvé un nouveau et tout. Tout le monde prenait des photos, on sortait les drones, on faisait des prises de vue aériennes, etc. Tout le monde était excité. Quand on est arrivé vers la fin de l'expédition, qu'on n'en pouvait plus, que c'était plus
tard. Encore chier ces dinos.
C'était un peu ça, c'était vite cachez-le, que le boss le voit pas, parce que s'il faut encore en sortir un, on va mourir. Donc, voilà, il y avait différentes réactions en fonction du moment de l'expédition. Mais globalement, on n'a pas fait de grosses découvertes sur la fin, mais il a fallu qu'on accélère un peu sur les derniers jours, parce qu'effectivement, il en restait un gros à sortir. Ils avaient bossé à 6 dessus pendant 2 semaines. Ils avaient bien avancé, mais il était très loin d'être sorti du sol au bout de 2 semaines. Donc là, après, tous les autres étaient finis. Donc on a tous travaillé dessus, donc on était une quinzaine à travailler dessus. Là, c'est allé beaucoup plus vite, mais il nous a fallu encore 4-5 jours pour le sortir.
Il mesure combien
En longueur, on va dire entre 10 et 15 mètres, à peu près.
Ce qui est génial, c'est qu'ils mettent des photos où ils s'allongent à côté des eaux et ils font des photos aériennes, tu vois. Donc tu dis, waouh, le truc est énorme.
Oh, le gros nonos.
En général, quand on fait ce genre de photos, on prend le plus petit de l'expédition.
Ah ouais.
Comme ça, c'est plus impressionnant d'avoir.
Ah oui, le plus petit.
Là, c'était les plus petites, en l'occurrence, c'était deux filles. Mais c'est rigolo. Ouais, c'est des fémurs, c'est déjà d'une bonne taille. Hein, les photos que j'ai mises sur Twitter, c'est un fémur qui faisait 1m60. Mais effectivement, sur ces animaux-là, on peut avoir des fémurs qui... Je crois que le record du monde est à 2m40, un truc comme ça. Donc, c'est un peu vraiment gros.
Tu fais des likes sur Instagram avec une photo à côté du nonos, hein. Ça, j'ai jamais fait
tout ce
ça.
Ce qui t'intéresse, Maxime.
Bien sûr, mais moi, je veux de l'amour. Et quand t'es rentré, alors, c'était petit contre-coup, alors ça... Ouais, parce que là, tu renchaînes en plus, parce que maintenant, c'est la promo et tout.
Ouais, alors là, il y a pas mal, effectivement, de... Alors déjà, il y a le retour à la vie de tous les jours. Je retrouve tout ce que j'ai laissé derrière moi pendant un mois, donc il y a eu pas mal de poussière qui a été mise sous le tapis, donc
t'as l'habitude maintenant.
Ouais, voilà, c'est ça, la poussière, je suis plus à quelques tonnes de poussière près. Mais effectivement, il faut un peu... Bon, déjà, se remettre dans le rythme, ça, bon, avec les voyages, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que quand on part longtemps comme ça, qu'on est coupé du monde, passer en 48 heures du fin fond du désert au métro parisien, c'est toujours un petit peu particulier. Le retour, Twitter, tout ça, la promotion, enfin, les interviews qui s'enchaînent, bon, c'est très bien, ça fait parler de l'expédition, ça montre ce qu'on est capable de faire, des collaborations qu'on peut avoir aussi avec ces pays-là, hein, parce que c'est très important de dire que là, c'est vraiment c'était une expédition américano-nigérienne. Rien ne se fait sans l'aval des autorités nigériennes, on est en collaboration totale avec eux. Voilà, c'est un peu, j'y pense maintenant, mais je le dis, c'est important. Là, je dois faire un rapport d'ailleurs qui va être transmis au gouvernement nigérien pour leur expliquer ce qui a été trouvé pendant cette phase 2, etc. Ouais. Donc c'est très important. Mais c'est vrai que le retour à la réalité, c'est un petit peu particulier, mais en même temps, bon, c'est toujours pareil, on est un peu content de rentrer, hein, parce que moi, j'avais pas eu de douche pendant 25 jours.
Donc, on avait oublié ce petit détail, Marie.
La shower, la douche.
Oh, punaise.
Pas de douche, pas de douche. On avait des petites douches solaires, mais qu'on pouvait utiliser que... Moi, je les ai utilisées une fois en 25 jours. On avait un jour où on pouvait les utiliser, parce qu'on essayait d'économiser l'eau, tout simplement, parce qu'il fallait beaucoup d'eau déjà pour qu'on boive, pour s'hydrater, pour cuisiner aussi, parce que tout était déshydraté, donc il fallait tout réhydrater, et aussi pour plâtrer, parce qu'on utilise beaucoup de plâtre pour protéger les fossiles. On a utilisé 4 tonnes de sacs de plâtre, donc ça c'est le poids du plâtre sec en poudre, hein. C'est pas le poids final. Total, on a dû extraire roche plus plâtre une 40aine de tonnes de fossiles.
Et donc pas de douche.
Pas de douche, non. Pas de douche pendant 25 jours.
Et douche de lapin. Avec
il y a des petites lingettes sous les aisselles. La douche de lapin, c'est ça.
Pourquoi douche de lapin? Je sais pas, il y a des enfants qui disaient petite douche. On fait une petite douche de lapin. Et non, je sais plus,
c'était
les amis.
Ouais, non, c'est pas. Après, on se débrouille un peu comme on peut. On a eu des petites lingettes, voilà, des choses comme ça, pour essayer quand même de se décrasser. Mais c'est vrai que pas de douche pendant 25 jours, pas de fraîcheur, pas de boisson fraîche, pas de trucs.
Qu'est-ce
comme
que
ça.
T'as et quand t'es revenu? Ce que t'as mangé qui t'a fait.
Premier truc.
Je crois que le premier truc, c'était une glace.
Oh ouais. Bah ouais, une glace.
Maxime, il est en passion glace aussi. Hein.
Ouais, là, c'était une glace. Mais
ou passion au citron. Allez.
Ouais, donc tu me connais par cœur. Ouais, moi, quand j'ai fait mes 4 jours sans manger là, au Népal, moi, c'était direct. J'avais vu des bonbons juste avant de partir dans un endroit. Ouais. Et en fait, je pensais à ces bonbons pendant 4 jours parce que je pouvais pas manger et tout. Au lieu de penser à des burgers ou quoi, je suis retourné dans le magasin. Ils avaient plus les bonbons que j'avais visualisés. J'étais dégoûté.
Ah ouais.
C'était une glace et après après
glace,
des
quelle glace dis-moi.
Je crois que c'était un Magnum.
Oh ouais, chocolat blanc.
Ouais, un truc comme ça. Un Magnum et après je suis allé je crois que je me suis fait pendant 3-4 jours glace à tous les repas.
Donc, bien sûr.
Je suis allé au glacier de mon quartier, j'ai tout fait. Mais non, c'était glace et puis des produits frais, enfin juste des légumes frais, une bonne viande rouge. Désolé pour les véganes, mais
des raviolis en boîte. Bam voilà.
Non, ouais, non, c'est ce genre de choses.
Michael Benz déjà cuisine. Déjà...
De la nourriture asiatique, ça peut paraître aussi débile, c'est des choses, on a l'habitude de manger ça quand on vit à Paris, du japonais, du chinois, etc. C'était pas le cas dans le désert, donc c'est des petites choses. Bon voilà, on reprend le rythme normal.
Est-ce que tu as d'autres aventures qui ont marqué ta vie, une anecdote à nous raconter, une autre expérience qui...
En voyage ?
Ouais, en voyage. Ouais,
j'ai fait plusieurs voyages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai fait plusieurs fois le Canada, mais notamment la Colombie-Britannique et l'île de Vancouver. Il y a une randonnée qui est absolument géniale qui s'appelle le West Coast Trail. Donc c'est 75 km de rando au milieu de nulle part. Et c'est pareil, c'est la déconnexion totale. J'ai fait ça avec ma femme et mon frère. On est parti, donc c'était 6 jours en autonomie totale. Donc avec
sur le dos.
Tout sur le dos. La bouffe, la flotte. Oui. Enfin, la flotte, on avait notre pompe Katadyn pour filtrer l'eau.
Alors, c'est quoi une pompe Katadyn ? Parce que moi, je connais la petite paille.
C'est la version un peu plus sophistiquée. Okay. C'est-à-dire que c'est une petite pompe et ça permet de remplir comme ça les camelbags avec de l'eau qui a été filtrée. Parce que même si on est au milieu de nulle part, s'il y a un ours qui a fait pipi 50 mètres au-dessus, on n'a pas envie de.
Donc, pas la flemme de voir de la pisse d'ours.
C'est des choses comme. Non, mais c'est des mesures d'hygiène aussi, donc on a toujours des petites pastilles désinfectantes et puis une petite pompe pour filtrer. Mais c'était vraiment une rando incroyable, donc au milieu des ours, des lions de mer, c'était en bord de mer, c'est absolument fabuleux. Je travaillais le matin autour de la tente, on avait des empreintes de loups, des trucs comme ça. C'était vraiment très chouette. Et c'est pareil, on a mis beaucoup de temps à s'en remettre quand on est. Le retour à la réalité a été un peu hardcore. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, un autre voyage que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance d'y aller deux fois, c'est l'Islande. C'est vrai que c'est une autre planète, quoi. Si les gens qui nous écoutent ont la chance d'y aller un jour, ou s'ils ont déjà allé, ils savent de quoi je parle, c'est vraiment un autre monde, des paysages complètement hallucinants, une richesse faunistique incroyable. Et maintenant, on mange très bien en plus en Islande.
Marie, aux dernières nouvelles, elle nous disait qu'on mange pas très bien en Islande.
Bah ouais, moi j'ai
la première fois que j'y suis allé, ça devait être en 2015, quelque chose comme ça, et on n'avait pas forcément très bien mangé. J'avais fait ça avec mon meilleur ami, et on avait peut-être un budget un peu plus serré à l'époque, j'en sais rien, mais c'était vraiment relativement basique comme nourriture.
Des trucs séchés là, de poids.
Oui, alors ça, après, c'est sûr que si on prend ce qu'ils appellent les chips de viking, là, des espèces de harengs séchés, les poissons déshydratés là, séchés, c'est un peu particulier. C'est pareil, si vous goûtez du requin du Groenland, c'est un espèce de vieux parmesan bizarre qu'ils font sécher pendant 9 mois à l'air libre. Enfin, qui laisse pourrir, ils appellent ça du requin pourri, littéralement.
Pas du requin, c'est du...
Si, c'est du requin. C'est du requin du Groenland.
Ah oui, mais...
Alors, le requin du Groenland, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas de rein.
Okay.
Donc, il n'est pas capable de filtrer l'urine qu'il a dans le sang. Alors, c'est un requin qui vit dans les eaux froides, très profondes, etc. Okay. Et donc, en fait, il a son
très,
sang
très
qui est,
jaune,
son sang qui est chargé, effectivement, en déchets, qui est chargé en urine... Et donc du coup, c'est une odeur qui est extrêmement forte. Et le seul moyen de retirer ces toxines de la chair, c'est de la laisser à l'air libre pendant 8-9 mois. Donc ils appellent ça littéralement du requin pourri. Donc c'est vrai que quand on visite ce genre d'endroit, ça pue. Et à goûter, c'est très particulier. Ils boivent ça avec une espèce d'aquavit, un petit alcool, un mi-chemin entre l'aquavit et le Jet 27, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est très particulier. Mais sinon, c'est vraiment un pays. Aujourd'hui, donc quand j'y suis retourné il y a quelques années, 4-5 ans plus tard. Alors déjà, malheureusement, j'ai vu les effets du réchauffement climatique sur les glaciers. Ouais. Ouais, c'était hallucinant. Hein. Notamment, il y a une lagune qui est très connue qui s'appelle Jökulsárlón, où on voit des icebergs qui flottent avant de se jeter dans la mer. Tout le monde a vu des photos de cet endroit-là. C'est un des endroits les plus visités en Islande. les plus connues d'Islande. Et quand j'y suis allé en 2015, on voyait bien le glacier du coup qui générait ces icebergs. Et quand j'y suis retourné 5 ans plus tard, ça avait reculé mais de 2 km quoi. C'était on le voyait presque plus en fait. Fallait prendre un bateau pour aller le voir. Donc ça, c'est vrai que c'était assez hallucinant. Mais parenthèse mise à part, par contre, la nourriture c'était bien amélioré.
Ouais, ouais.
Je pense qu'il y a toute une génération de jeunes chefs aussi qui ont entre 25
puis,
et 35 ans.
Moi, j'ai l'impression que l'Islande, c'est une destination beaucoup plus répandue que. Enfin, moi,
Je pense que ça a toujours été un pays quand même qui a cherché à avoir du tourisme. Ils sont à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe, donc il y a beaucoup de gens qui font une escale en fait. Hein, c'est ce qu'ils encouragent à faire, passer 3 jours en Islande avant de poursuivre votre chemin. Mais c'est vrai que la nourriture, pour le coup, aujourd'hui, ils ont vraiment su réinventer leur cuisine traditionnelle, tourner autour du poisson, autour du mouton, etc., pour avoir des choses qui sont vraiment excellentes.
Moi je peux rien bouffer. Ouais. Mais c'est pas grave.
Mais j'ai mangé des testicules de mouton au Niger sinon.
Bah non, voilà. Tu peux pas manger les testicules de mouton.
Non, toujours. Pas les... Même si. Non, je peux pas manger les testicules.
Bon. Et cuit, hein, je précise.
Elle est végé. Marie, elle est végé. Donc,
Ouais, mais c'est pas grave. Je...
Tu prendras tes
testicules. J'avais une amie, Rachel, qui était avec moi, qui elle a fait 2 mois là-bas.
Rasgeller, il a une amie qui s'appelle Rachel.
C'est vrai. Et donc Rachel, elle a fait 2 mois là-bas au Niger, elle est rentrée en même temps que moi, et pour le coup elle est végé, mais elle s'en est,
enfin,
c'est un petit peu adapté là-bas on va dire, mais elle s'en est...
C'est la survie, hein, c'est la survie.
Elle a bien mangé quand même.
Est-ce que tu aurais, alors imagine-toi, tu sais, au l'autre bout de la planète, dans une auberge de jeunesse, peut-être avec un petit feu, tu vois, t'es au Niger, t'es avec que des touristes étrangers autour de toi. C'est le moment de raconter ton anecdote de voyage incroyable. Et tu dois faire en sorte que les gens, ils te regardent comme ça, ils mangent un petit bonbon sans sucre là, ils disent « Ah, non, je vais plutôt l'écouter parler. »
Ils mangent un Pringles.
Et la bam, s'envoie les Pringles. Est-ce que tu aurais un truc comme ça dans ta besace?
Ah bah pour que les gens recrachent leurs bonbons ou leurs trucs qu'ils sont en train de manger, justement, les testicules de mouton, je pense que c'est pas mal.
Ça, t'as déjà spoilé.
J'ai déjà spoilé, désolé. On vient d'en parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a des anecdotes de rando, des choses comme ça, où on voit des choses. Quand j'étais en Islande, on était dans les fjords en voiture avec ma femme, et on voit des baleines à bosse qui commencent à sauter au milieu des fjords. C'est des trucs, bon, tu dis, ok, on est chanceux et on va s'arrêter un moment pour observer. Quoi.
Là, tu vis l'instant présent à fond, là, moi, je peux te
le
dire.
Là, tu penses pas à autre chose. Là, ouais. Pendant ces instants-là, tu penses à ton appareil photo,
oui,
éventuellement.
C'est ça, bah oui, la petite photo, voilà. Le petit like.
L'appareil photo.
Moi, j'aurais pensé aussi.
Tu penses à ton appareil photo, puis là, tu essaies de prendre une photo, puis tu vois que tu zoomes pas assez du tout et que ça va pas être possible, donc tu es juste dégoûté. Et puis, tu dis, bon, allez, je laisse tomber l'appareil photo, je profite de l'instant.
Mais ça, je trouve ça un peu kiffant. Ce moment où tu vois un truc très beau, mais qui rend très moche avec ton téléphone, un beau coucher de soleil, une pleine lune un peu stylée et tout, clair, machin. Oui. T'essayes de faire la photo, c'est éclaté, c'est rend pas du tout. Là, moi, je trouve ça un peu cool, je me dis, ok.
C'est exactement ça. Et au Niger, notamment, alors on était très suivis, on avait des photographes du National Geographic qui étaient avec nous, qui font des photos juste incroyables. Ah. Je vous invite à aller les voir, notamment il y a Kis Lazinski, il a 1,5 million de followers sur Insta, et ses photos sont juste incroyables.
Putain, je note.
Va voir. De toute façon, il me follow, je le follow sur Insta, donc il y a pas de problème, tu le retrouveras sans problème. Mais Kiss, il fait des photos qui sont. Il a mis quelques photos du Niger déjà pour teaser un petit peu. Donc celles que j'ai mises moi sur Twitter, elles sont sympas, mais comparées aux siennes, c'est juste un autre monde. Donc c'est pareil, on avait une équipe média qui était avec nous parce que ça a été filmé, ça va être un documentaire en 2-3 épisodes. On sait pas encore exactement. Peut-être qu'ils vont faire un épisode par mois, peut-être qu'ils vont tout condenser en deux. On verra. Mais filmé en IMAX avec drone et compagnie.
Ah ouais, filmé en IMAX.
Et donc on avait 2 caméramans, un perchiste qui était là en permanence avec nous. Des images, on va en avoir plein. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu dégoûté de voir ces couchers de soleil là sur la plaine de l'Irazer quand le soir il y avait un ciel un peu poussiéreux, ça faisait une lumière complètement surréaliste. Moi j'étais là avec mon pauvre téléphone portable qu'on pouvait plus du sable à essayer de prendre une photo. J'ai un appareil photo chez moi, un bon appareil, etc. Mais je l'avais pas pris pour des raisons pratiques. J'étais déjà assez chargé comme ça. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, tu dis bon, on va profiter de l'instant.
Ouais, ouais.
Et une autre anecdote qui m'a marqué là-bas, bon, c'est déjà la profondeur du ciel. La nuit.
Ah ouais, j'allais te demander est-ce qu'on voit les étoiles.
On voit tout. Enfin, c'est zéro pollution lumineuse. Si vous tapez pollution lumineuse, carte du monde, pollution lumineuse, vous regardez, vous voyez que le Niger, c'est noir foncé, quoi. Il y a zéro pollution lumineuse. Alors, faut pas que le ciel soit trop poussiéreux, mais en général, la nuit, ça allait. Parce que le vent tombait, donc la poussière avec. Mais on a vu des trucs incroyables. J'ai vu les plus belles étoiles filantes que j'ai jamais vues de ma vie. Parce que le moindre truc qui rentre dans l'atmosphère, tu le vois tout de suite. Et j'en ai même vu une de jour.
Une
étoile filante de jour. Alors ça, c'était impressionnant.
Flippant, ça. Hein,
c'était en fin de journée, mais le soleil il devait être 17h30. Donc le soleil, il se couche vers 18h, à peu près, 18h15. Donc le soleil n'était pas encore couché, mais la luminosité commençait à baisser. Et une étoile filante en plein jour, ça fait bizarre.
Tu te dis qu'il va peut-être se rapprocher. Le mec, il trouve des dinosaures et des astéroïdes qui lui tombent dessus. Putain, chance du gars, quoi. Je m'imagine trop là dans le désert avec des étoiles partout.
J'avais beaucoup de mes petits camarades là qui dormaient à la belle étoile. Sous moustiquaire quand même, c'était pas tellement pour les moustiques, mais il y avait pas mal de bestioles un peu.
Ah, il y avait eu des petits les trucs à pinces là, les scorpions, vous avez ça?
Alors, scorpions, on en avait, moi j'en avais même un sous ma tente quand je l'ai démonté. Et les scorpions là-bas, ça rigole pas, hein, c'est les plus dangereux du monde, donc on fait gaffe toute la journée. Surtout que nous, on passait notre journée à retourner des cailloux, donc on faisait un peu attention.
Scorpions.
Ouais, on en voyait quasiment tous les jours. Il y avait une bestiole assez sympa aussi, enfin je dis assez sympa, moi j'ai fait un tweet sur. Je dis tiens, c'est Halloween, voilà une photo. Cette bestiole, ce qu'on appelle une solifuge, camel spider en anglais, ça a une tête assez. Alors ça dépend des goûts des gens, mais qu'on va qualifier.
Oh,
à quoi ça ressemble.
Attends, j'en ai une autre là. Attends, la deuxième, elle est. Oh là là, regarde. J'ai jamais vu un truc aussi.
Ah, ça me dégoûte.
Ah ouais, ça, là, c'est la
elle, c'est gros comment?
Ça peut faire entre 5 et 10 cm de long, on va dire.
C'est
assez gros quand même.
C'est gros.
C'est assez gros.
Je décris un peu pour les gens. En gros, ça ressemble un peu à une araignée avec le gros corps, des pattes et des dents. Enfin, je sais pas. C'est...
Ouais, ça a des mandibules très impressionnantes.
Vous voyez les méchants dans. Enfin, les monstres dans The Last of Us. Tu sais, avec les petites bouches qui font là, toutes les dents là.
Ah mince, j'ai pas The Last of Us.
Ça sort sur HBO bientôt.
C'est sympa les solifuges, et donc c'est comme son nom l'indique, ça fuit la lumière.
Donc
on les voyait là, c'était surtout la nuit. Et ça court très vite, peut courir à 16 km/h. Donc ceux qui font du footing savent ce que ça représente, 16 km/h. Donc ça peut se déplacer très vite.
Je serais mort.
16 km/h, c'est hyper rapide. Oh là 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 là.
Ok, bon.
Et eh ben ouais. Serpents, des petits serpents.
Non, pas de. Non. Alors pas dans le coin où on était. Après oui, sinon il y a de la vipère du Gabon, des trucs comme ça. Mais là où on était, non, on n'avait pas de serpents. C'était vraiment fallait faire vraiment attention aux scorpions et les solifuges, c'est pas méchant. C'est pas très.
C'est juste dégueu.
Ça a pas une tête très amicale, on va dire, mais c'est pas dangereux.
Bah attends.
Et si ça te pique, enfin si ça te mord.
La redoutable.
Ça peut mordre un peu, mais en général ça fuit, ça va pas.
Ok.
Les scorpions, par contre, c'est pareil. Les scorpions en général, ils ont tendance à fuir, mais si on marche dessus.
C'était incroyable toutes ces aventures. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas encore faites dans ta vie que tu rêves de faire pour la petite bucket list à la fin là? Est-ce quoi la suite?
Il y a plein de pays que j'ai pas visités, donc j'aimerais bien aller effectivement, notamment pour les dinosaures. C'est vrai que l'Antarctique, ça a pas encore été très exploré pour des raisons évidentes. J'ai des copains qui font des expéditions.
Ça va être facile vu que ça fond.
Ouais, c'est ça.
Une bonne nouvelle.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, pour nous c'est une bonne nouvelle, réchauffement climatique dans ce cas-là.
Bonne nouvelle pour le paléontologue.
Il fera encore plus chaud sur les chantiers de fouilles comme ça.
Non, en plus il paraît que il y a des gaz en fait qui vont ressortir parce que non, c'est pas ça.
Genre... L'éclatrate, le méthane.
Ouais, ouais, parce que il y a des gaz qui sont enfouis sous la glace et plus ça va fondre, plus il va y avoir des machins avec des virus de l'an du passé. Enfin bref, je suis pas scientifique, mais j'ai entendu ça.
C'est les sols gelés de Sibérie, oui, on dit que ça va dégager pas mal avec le réchauffement. Mais donc voilà, non, il y a effectivement en milieu polaire, que ce soit pôle nord ou pôle sud, il y a encore pas mal de choses à explorer.
On connaît, nous.
Pour faire un featuring
avec Léa Bello.
Oui, je sais qu'elle devait partir. Elle est partie d'ailleurs avec les TAF, dans les TAF. J'avais suivi ça sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais voilà, ça fait partie des missions. Aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait il n'y a pas de mission qui soit prévue paléontologique dans le pôle sud, parce qu'on a plein d'autres terrains. Mais scientifiquement, c'est une grosse lacune.
Très bien. Parce
que le pôle sud n'a pas toujours été au pôle sud, donc il y a eu des dinosaures au pôle sud.
C'est pour ça que tu te trompais, Marie. Parce que le pôle sud, il n'était toujours pas au pôle sud. C'est pour ça.
Si on parle du pôle sud, justement, le Niger, c'était au pré-cambrien, je crois, était, donc il y a plusieurs centaines de millions d'années, était au pôle sud.
Ah oui, à l'époque où il y avait la pancrée, non, comment on appelle ça,
la pangée. Ouais.
La pangée.
Ouais. Putain, c'était même avant la pangée.
Aucune rêve.
C'est avant. Ouais. Bah, en fait, c'est la terre. Je vais m'expliquer. La terre, elle bouge. Enfin, avant, tout était relié.
Bougent.
Et les continents, ils sont décrochés et tout. Ah ouais,
la
tu sais pas du tout.
Plate.
Ah oui, c'est vrai, Marie.
Ouais, c'est ça.
Je suis platiste.
Attends, le Niger, il était au niveau du pôle.
Ouais, il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ouais.
Et alors attends, petite question.
Ah oui, si, c'est bon, j'ai
compris.
Oui, si, je savais.
Ouais.
Je savais juste pas le nom.
La Pangée. Le pancréas, un peu le pancréas.
Ouais, c'est comme la France, le site dont je m'occupe du coup à Canjuers, donc c'est un site qui a 145 millions d'années.
Ouais.
À cette époque-là, la France était à peu près au niveau du Niger aujourd'hui. Donc c'est, voilà, ça bouge pas mal quand même.
Et un petit conseil s'il y a des gens qui veulent aller découvrir, tu disais, les, pour découvrir un peu la paléontologie ou alors les,
si,
les...
Si, oui, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est un, comment on devient paléontologue? Deux, est-ce qu'on peut participer au chantier de fouilles? Alors comment on devient paléontologue? Le parcours classique, ça va être de faire des études en paléontologie. Donc on commence en général par une licence en sciences et vie de la Terre, soit en biologie, soit en géologie. Il y a la possibilité déjà de choisir des électifs qui permettent, enfin des cours qui permettent de, déjà de s'orienter un petit peu vers la pale. À partir du master, il y a des masters de paléontologie qui existent, hein, dans différentes villes de France. Il y en a à Lille, Rennes, Paris, Montpellier, j'en pourrais en citer que quelques-uns, Poitiers. Et ensuite, une fois qu'on a son master, il faut faire une thèse, hein, pour devenir docteur en paléontologie. Je vais quand même être franc, c'est une filière qui est très sélective, notamment à partir de la thèse. Tout le monde n'a pas une thèse. Tous ceux qui ont leur master et qui veulent faire une thèse ne feront pas une thèse, on va être clair là-dessus. Et une fois qu'on a sa thèse, une fois qu'on est docteur, c'est là que le plus dur commence, c'est d'avoir un poste. Donc clairement, c'est pas des métiers où il y a beaucoup de débouchés. Il y a très peu de paléontologues en France qui en vivent. Moi, j'en vis pas, je suis bénévole, hein, donc comme on disait au début, j'ai un métier à côté. Si on veut en faire en son métier, c'est quand même quelque chose de très compliqué et il faut être prêt à bouger à l'étranger pendant plusieurs années. En général,
Il y a plus de chances d'être paléontologue ou cosmonaute?
Je pense que ça se vaut. Hein.
Ah ouais, pas de...
Il y a peut-être plus de chances d'être paléontologue quand même, mais par exemple, paléontologue sur les dinosaures, il n'y a qu'une seule personne vraiment en France titulaire qui bosse sur les dinosaures. Ah ouais, c'est Ronan Alain, c'est mon responsable au CR2P, au centre de recherche en paléontologie de Paris, qui dépend du muséum. Voilà, donc c'est un pour toute la France. Bon, donc il y a un Thomas Pesquet et un Ronan Alain. Donc,
incroyable.
Si les gens veulent participer à des chantiers de fouilles, ça c'est tout à fait... Enfin, c'est envisageable. Alors, il faut être motivé. Il faut quand même pas débarquer les mains dans les poches sans rien connaître. Il faut quand même s'être documenté un peu avant. Mais effectivement, ils peuvent se rapprocher des associations locales. Et puis sur les réseaux sociaux, des fois on passe des petites annonces, etc. Ils peuvent postuler.
Eh bien, voilà pour les infos. J'espère que vous avez bien noté dans votre petit carnet tout ce qu'il fallait. Nous, petit carnet. Merci infiniment, Vincent, c'était exceptionnel. Merci, Marie, pour ce quiz hyper original, très très cool. Moi, je suis très content. Voilà, les touristos et les touristas qui veulent s'abonner au compte Instagram de Tourista, on vous partage du contenu additionnel, c'est trop cool. Si vous voulez nous mettre des petits commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à grandir, ça nous fait trop plaisir. Et merci, c'est comme ça qu'on continue ce beau podcast et voilà, qu'on découvre un petit peu les merveilles de la vie tous ensemble. J'arrête le café.
Merci Maxime
pour
cette outro. Et attends, j'avais envie, est-ce que vous voyez dans Friends quand Ross il imite un dinosaure et dit on sait pas à quoi il... Il fait genre voilà, comme tu cherches des sons à la fin souvent.
Ouais, je vais essayer de trouver ça.
Ouais, c'est
je te mets Ross.
Bah, alors c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais c'est que les dinosaures n'ont pas disparu. Tous les oiseaux sont des dinosaures techniquement parlant.
Les poulets, j'ai vu ça.
Exactement.
Là. Putain, c'est ouf.
Donc, si on veut imiter un dinosaure, imiter un oiseau, c'est sûrement ce qui s'en rapproche le plus.
Oh waouh, il le fait hyper bien, j'ai eu un peu peur. Bravo Maxime.
Allez. Très belle imitation.
À bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.